Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 4 novembre 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seludia. Tout d'abord, les titres. En RDC, le président Félix Tshisekedi appelle à la mobilisation générale face à la rébellion du M23. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko espère un non-lieu dans sa première audition pour viol. Accord entre la Mauritanie et l'Espagne sur l'immigration clandestine. En Guinée équatoriale, lancement jeudi de la campagne pour la présidentielle du 20 novembre. En Israël, l'ex-premier ministre Netanyahou obtient aux législatives une majorité avec ses alliés religieux et d'extrême droite. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump sillonnent le pays à 5 jours des élections de mi-mandat. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi appelle à la mobilisation générale. Dans un discours hier à la Nation, il a indiqué avoir privilégié l'option diplomatique, mais que la guerre restait envisageable. Il soutient que le Rwanda soutient les rebelles du M23. Le point avec Eddie Isango.
Aucune des multiples démarches menées sur le plan diplomatique n'a jusqu'à ce jour produit des résultats escomptés, a regretté le chef de l'État congolais. Félix Tshisekedi a rappelé sa volonté de faire la paix avec tous les 9 voisins de son pays depuis son entrée au pouvoir en 2019. Il a énuméré toutes les rencontres avec son homologue rwandais Paul Kagame, des rencontres qui, selon lui, ont toutes exigé la cessation des hostilités et les retraits immédiats des rebelles du M23 des positions qu'ils occupent. Il a égriné les sommets de Nairobi et de Luanda et la rencontre arrangée par le président français Emmanuel Macron qui n'ont pas permis une désescalade. Félix Tshisekedi appelle à la mobilisation générale et met en garde les traîtres qui doivent subir toute la rigueur de la loi. Il a aussi mis en garde contre les propos de haine et actes xénophobes à l'endroit des populations rwandophones. Le M23, mouvement d'origine rwandophone, a repris l'offensive il y a plus d'une semaine dans les Rutshuru et a pris plusieurs localités. Kinshasa accuse le Rwanda de l'appuyer et Kigali dément et demande à la RDC de cesser d'appuyer les rebelles FDLR.
Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été entendu hier par le doyen des juges d'instruction du tribunal de Dakar dans l'affaire de viol et menace de mort qui l'oppose à la masseuse Adissar. Sa première convocation et son arrestation en mars 2021 avaient embrasé le pays et fait 14 morts dans de violentes manifestations. Pour cette nouvelle audition, tout s'est bien passé et la capitale sénégalaise a été bunkerisée par les forces de l'ordre pour éviter tout débordement, nous dit notre correspondant à Dakar, Sedina Abagué.
Après une première convocation avortée en mars 2021, Ousmane Sonko a finalement fait face au doyen des juges d'instruction du tribunal de Dakar. Accusé de viol répété et de menace de mort par une masseuse du nom d'Adissar, l'opposant a toujours nié ces faits et d'après son avocat, maître Joseph Etienne John, l'audience avec le juge s'est bien passée.
Après les témoins qui ont défilé, c'était normal que lui vienne pour répondre aux questions du juge. Et je vous dis tout de suite que nous sommes rentrés confiants dans le bureau du doyen des juges. Nous en sommes ressortis renforcés, plus que jamais confiants. Il a toujours dit c'est la thèse du complot et il l'a démontré.
L'avocat fait remarquer que l'audition d'Ousmane Sonko par le doyen des juges a été marquée par l'arrestation des éléments de sa sécurité. Ces derniers seraient impliqués dans les affrontements qui ont eu lieu dans la localité de Tchiki lors de la récente tournée de l'opposant.
Mais je trouve que c'est pas élégant. Donc il est venu avec ses gardes du corps. On devait tranquillement le laisser rentrer avec ses gardes du corps. Donc pendant qu'il était en audition, ils en ont profité pour les kidnapper et les amener purement et simplement en bourg.
Malgré ces arrestations qu'il juge arbitraires, Ousmane Sonko est finalement rentré chez lui après plusieurs heures de face à face avec le doyen des juges. Ce dernier devrait continuer ses auditions avant d'indiquer la suite judiciaire qui sera donnée à ce dossier qui tient en haleine le Sénégal depuis mars 2021. Sedina Abagué à Dakar pour VOA Afrique.
Les avocats de M. Sonko disent espérer un non-lieu total sur ce qu'ils qualifient de fait inexistant. Nouakchott et Madrid ont conclu un accord sur la sécurité devant permettre à la Mauritanie de disposer de plus de moyens logistiques et techniques pour lutter contre l'immigration clandestine, selon l'agence mauritanienne d'information. La Mauritanie est un pays de transit pour des candidats à l'immigration qui tentent de rejoindre l'Europe à travers l'Espagne. Depuis le début de l'année, quelque 11 500 migrants ont réussi à faire la traversée vers les îles Canaries à partir de l'Afrique, selon des chiffres du gouvernement espagnol arrêtés au 15 septembre. En Guinée équatoriale, lancement hier de la campagne pour le scrutin présidentiel ainsi que pour les élections législatives, sénatoriales et municipales du 20 novembre, avec un premier meeting du président équato-guinéen, Mohamed Oumpha.
Le président Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo, candidat à sa propre succession pour un sixième mandat, a ouvert le bal avec un meeting dans la ville de Bibéine, frontalière du Cameroun. Les instances du parti m'ont choisi pour être candidat parce que je suis le symbole de la paix qui règne, a-t-il lancé devant des centaines de militants. Sans surprise, l'offre électorale de M. Obiang est axée sur la continuité du développement du pays, d'après son programme lu à la tribune par Geronimo Osa Osa Ekoro, secrétaire général du PDGE, le parti au pouvoir. « Il vaut mieux un vieil ami qu'un nouveau à découvrir », a lancé Teodoro Nguema Obiang, fils du président et actuel vice-président du pays. M. Obiang, 80 ans, qui détient le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'État vivant hors monarchie après 43 ans au pouvoir, aura face à lui deux candidats, Andrés Essono Ondo, candidat de la Convergence pour la démocratie sociale, seul parti d'opposition qui ne soit pas interdit, et Buenaventura Monsoï Assoumou, candidat du parti de la coalition social-démocrate, jusqu'alors allié au parti au pouvoir dans les scrutins législatifs et municipaux. M. Essono Ondo se présente pour la première fois et M. Monsoï Assoumou pour la troisième.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Israël, la commission électorale a indiqué hier que l'ancien premier ministre Benjamin Netanyahou et ses alliés de droite ont obtenu la majorité des sièges au Parlement à l'issue des législatives de mardi, le cinquième vote en moins de 4 ans, Michel Joseph.
Avec 32 sièges pour le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, 18 pour les partis ultra-orthodoxes et 14 pour une alliance d'extrême droite, cette coalition a remporté 64 sièges selon les résultats publiés par la commission. Le bloc d'opposition du premier ministre sortant, le centriste Yair Lapid, a obtenu 51 sièges. D'ailleurs, M. Lapid a déjà reconnu sa défaite et a félicité hier M. Netanyahou pour sa victoire. Cette concession permet à l'ancien premier ministre de former ce qui pourrait être le gouvernement le plus à droite de toute l'histoire d'Israël. M. Netanyahou, âgé de 73 ans, a réussi son retour au pouvoir après 14 mois dans l'opposition. Il est toujours en procès pour des allégations de corruption qu'il nie et l'affaire retourne au tribunal lundi. La semaine prochaine, le président Isaac Herzog va donner symboliquement 42 jours à M. Netanyahou pour former un nouveau gouvernement.
Ici aux États-Unis, le démocrate Joe Biden et son prédécesseur républicain Donald Trump ont enclenché jeudi la vitesse supérieure, arpentant les États-Unis à 5 jours des élections de mi-mandat, qui pourraient paralyser la capacité du président démocrate Biden lors de ses 2 dernières années de mandat et préparer le terrain pour un potentiel retour de M. Trump en 2024. La dynamique récente des sondages est plutôt du côté républicain. En Ukraine, près de 4,5 millions de personnes étaient privées d'électricité dans la nuit de jeudi à vendredi en raison de frappes russes contre les infrastructures du pays. Le président Volodymyr Zelensky dénonçant une terreur énergétique par ailleurs, les exportations de céréales à partir des ports ukrainiens ont repris jeudi après le retour de la Russie dans l'accord sur un couloir humanitaire, le G7 directe, s'engageant de son côté à empêcher Moscou d'affamer et de faire mourir de froid les Ukrainiens cet hiver. La Corée du Nord a procédé à un tir de barrage dans la nuit de jeudi à vendredi sur une zone maritime tampon, a déclaré l'armée de Séoul dans le cadre d'une recrudescence de tirs de Pyongyang, dont un missile balistique intercontinental qui a échoué en plein vol. L'ex-premier ministre pakistanais Imran Khan était jeudi dans un état stable après avoir été blessé par balle à la jambe droite. Le chancelier allemand Olaf Scholz a rencontré vendredi à Pékin le président chinois Xi Jinping dans le cadre d'une visite très controversée en raison du contexte de défiance croissante de l'Occident face au régime autoritaire chinois. La Minute Éco, Nani Talani.
Lomé et Cotonou lancent conjointement d'importants travaux de protection de la côte Agbodrafo côté togolais et Grand Popo côté béninois. Le Togo et le Bénin ont engagé une société néerlandaise pour environ 42 milliards de francs CFA pour réaliser les travaux soutenus par la Banque mondiale selon Togo First. Les législateurs ougandais ont approuvé une demande du gouvernement d'emprunter 464 millions de dollars auprès des bailleurs internationaux pour développer des infrastructures. L'emprunt est susceptible d'alimenter de nouvelles inquiétudes quant à la capacité de l'Ouganda à rembourser sa dette, qui a grimpé à 21 milliards de dollars en 2021 contre environ 18 milliards de dollars en 2020. Terminons par le géant suisse du négoce des matières premières Glencore, qui a été condamné jeudi par la justice britannique à payer 320 millions d'euros pour des faits de corruption en Afrique. Une enquête des autorités britanniques, qui s'ajoute à d'autres procédures aux États-Unis et au Brésil, a révélé que Glencore a versé des pots de vin à hauteur de plus de 28 millions de dollars pour avoir un accès préférentiel au pétrole au Nigeria, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée équatoriale et au Soudan du Sud.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
12 policiers condamnés en Tunisie pour la mort d'un supporter de foot.
Oui, ces 12 policiers ont écopé de 2 ans de prison pour homicide involontaire après le décès d'un jeune supporter de foot mort noyé après un match en mars 2018. Deux autres policiers poursuivis dans cette affaire ont obtenu un non-lieu, a indiqué l'avocat Ghazi Mrabet, ajoutant que la famille de la victime va interjeter appel. C'est une mascarade de justice, a-t-il dénoncé. 14 policiers, tous en état de liberté, étaient accusés d'avoir poursuivi jusqu'à un petit cours d'eau proche du stade de Rades en périphérie de Tunis un groupe de fans du club africain impliqués dans des échauffourées avec d'autres supporters. Selon des témoins cités par Maître Mrabet, Omar Labidi, 19 ans, a crié aux policiers qui ne savaient pas nager avant de sauter dans l'eau pour leur échapper. Le corps du jeune homme a été repêché le lendemain à environ 3 km du stade de Rades.
Gérard Piqué annonce sa retraite de footballeur.
Le match de samedi sera mon dernier au Camp Nou, a annoncé le défenseur de 35 ans dans une courte vidéo diffusée sur son compte Twitter. Arrivé au FC Barcelone à l'âge de 10 ans, Piqué a quitté la Catalogne de 2004 à 2008 pour l'Académie de Manchester United, où il a remporté une première Ligue des Champions en 2008. Avant de revenir dans le club de son cœur, Piqué a remporté 8 titres de champion d'Espagne, 7 Coupes d'Espagne et surtout 3 Ligues des Champions avec le Barça. Il devrait jouer son tout dernier match avec le club catalan mardi prochain sur la pelouse d'Osasuna lors du dernier match de Liga programmé avant le départ des sélections pour le Mondial au Qatar.
Ici en NBA, les Nets se suspendent. Kyrie Irving.
Les Brooklyn Nets ont suspendu pour au moins 5 matchs du championnat leur star Kyrie Irving après sa promotion il y a une semaine d'un film à caractère antisémite sur ses réseaux sociaux. Selon la franchise new-yorkaise, cette suspension se prolongera tant que le joueur qui a refusé de dire qu'il n'avait pas de croyance antisémite, alors qu'il en a pourtant eu l'occasion à plusieurs reprises ces derniers jours, le fasse afin de remédier à l'impact négatif de sa conduite. 2018, le patron de la NBA, Adam Silver, a blâmé sans sanctionner cette attitude de Kyrie Irving et le fait qu'il n'ait pas présenté ses excuses. Basketball, pour terminer avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Golden State battu par Orlando 130 à 129, Denver bat Oklahoma City 122 à 110. De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. République démocratique du Congo, la rébellion du M23 est à quelques dizaines de kilomètres de Goma, la grande ville de l'Est qui vit dans la crainte et l'incertitude. Eddy Isango a joint un professeur d'université qui habite à Goma, Dadi Salé.
Il y a effectivement une psychose, parce qu'il y a trois jours plutôt, Goma a été menacée à moins de 20 kilomètres. Et que naturellement, les enfants ne pouvaient même plus aller à l'école et que les marchés ne peuvent plus convenablement. Toutes les activités étaient bloquées et que les gens commençaient à penser que c'était passé. Mais ces trois jours, il n'y a pas eu d'affrontement aux alentours de Goma, même si on a brûlé quand même un véhicule de la Monusco à 4 km de Goma, ça continue de plus en plus. Trois jours, pas d'affrontement. Sur le front, sérieusement, ça fait que quand même, la population commence à réfléchir un peu. Le ministre de la Défense et de la République démocratique du Congo est arrivé aujourd'hui à Goma avec une grande délégation. Et c'est que ça calme encore un peu les esprits. Parce que les avions ne m'atterrissaient plus à Goma. Et qui fait que les gens qui disent qu'on est déjà fait un happy chat. Il y a beaucoup de réfugiés, plutôt de déplacés. L'aspect humanitaire est très important. Parce que c'est vrai, il y a quelques efforts de la part du gouvernement et de l'humanitaire, mais j'ai fait témoigner moi-même que la situation est grave et que les gens, hier, il y a une dame qui est décédée, des familles, il faut bien comprendre, quand on décède parce qu'on n'a pas eu quoi manger, parce qu'on était on est déplacé, c'est très grave. Donc il y a beaucoup de cas de malnutrition, un peu dans le pic.
Qu'est-ce qu'a apporté alors l'annonce par le Kenya de l'envoi très prochainement des troupes de son pays sur cette partie de la RDC?
Comme c'est la mission de l'Eastern African Community, certaines personnes pensent que c'est une bonne chose rapidement que le Kenya puisse s'engager et venir, qui peut faire transformer un peu la situation de la guerre. Et on espère qu'on doit être une vraie force pour combattre la rébellion. C'est ça au fond, ça tombe bon. La deuxième tendance, c'est que certaines personnes pensent que ça a été par des forces étrangères, ne peuvent pas facilement aider la République démocratique du Congo par rapport à ce qu'on a vécu, parce que l'Ouganda est déjà là, et que nous avons la MONUSCO, avec plus de 50 nations qui sont là. Donc ça fait des deux.
Mais quelle est la situation sur le plan sécuritaire dans la ville même de Goma? La présence militaire doit être nombreuse ou elle n'est pas présente?
Oui, la présence militaire est là, mais elle n'est pas aussi nombreuse que ça, parce que toutes nos informations et vérifiées trouvent que c'est plutôt vers Kanyabayonga que beaucoup de militaires congolais sont partis.
Dadi Salé, professeur d'université qui habite à Goma.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Goma en RDC sur 87.2 FM.
Ce 4 novembre signifie 2 ans de guerre dans la région du Tigré dans le nord de l'Éthiopie. La trêve annoncée mercredi à l'issue de pourparlers organisés par l'Union africaine à Pretoria a fait naître l'espoir d'une cessation des hostilités. De Nairobi, Mohamed Youssouf a fait le point. Le récit est de Lionel Gahima.
Le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré ont accepté de mettre fin à 2 ans de conflit après une semaine de pourparlers à Pretoria. L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, médiateur de l'Union africaine, estime que cet accord marque une nouvelle aube pour l'Éthiopie.
Les deux parties in the Ethiopian conflict have formally agreed to the cessation of hostilities
Les deux parties ont convenu d'une cessation des hostilités, un désarmement systématique, ordonné et sans heurts, le rétablissement de l'ordre, la restauration des services publics, de l'accès sans entrave à l'aide humanitaire, la protection des civils, en particulier les femmes, les enfants et d'autres groupes vulnérables.
L'accord prévoit que les rebelles du Tigré déposent les armes en échange de leur réintégration et du retour de l'armée nationale dans la région. Les deux parties ont aussi accepté de mettre fin aux discours de haine qui ont alimenté le conflit. L'accord est considéré comme une percée majeure. Oluseguno Obasanjo reste confiant de son application.
L'agreement also takes care of assurance of security for all concerned.
L'accord prend aussi en charge l'assurance de la sécurité pour toutes les personnes concernées à l'intérieur et à l'extérieur de l'Éthiopie. Le suivi, la supervision et la vérification de la mise en œuvre seront effectués par le panel de haut niveau de l'Union africaine.
Le porte-parole des rebelles du Tigré, Getachew Reda, a mis en garde les fauteurs de troubles qui tenteraient de saboter l'accord de paix. S'exprimant lors d'une conférence de presse en ligne, Solomon Mesgebou, président du Forum des droits de l'homme du Tigré, a déclaré que cette fois-ci, le Premier ministre Abiy Ahmed sera tenu de respecter l'accord.
Malheureusement, Abiy est déterminé et sa principale motivation à cette négociation, comme il l'a démontré ces deux dernières années, maintenant parce que c'est un processus formel et très structuré. Des personnes de poids sont impliquées. Donc, c'est un très bon début, même si je n'ai pas de grands espoirs. Mais c'est un très bon début.
Dans une déclaration, Abiy Ahmed a souligné que l'accord est monumental, affirmant que son gouvernement s'engage à le mettre en œuvre. Abdullahi Halake de Refugees International estime que l'influence de l'Érythrée dans ce conflit ne peut être écartée.
Je pense que c'est probablement l'une des faiblesses de cette construction. Abiy soit pratiquement redevable à Asmara. Son armée est presque décimée. Il n'a pas une tonne de force, à part la construction et la milice financière. Nous sommes vraiment coincés avec Asmara dans un avenir prévisible.
Les forces éthiopiennes et les rebelles du Tigré avaient conclu un accord similaire un peu plus tôt cette année, mais les deux parties ont repris les hostilités en août, rompant un cessez-le-feu de près de 5 mois.
VOA Afrique en direct de Washington.
Kunti Camara, l'ex-commandant libérien de l'ULIMO, Mouvement uni de libération pour la démocratie, a été condamné mercredi à la prison à vie par la cour d'assises de Paris pour des exactions commises pendant la première guerre civile au Libéria. L'accusé de 47 ans a été reconnu coupable d'une série d'actes de torture et de barbarie contre des civils. Ce procès est le premier en France consacré à la guerre civile libérienne. Nani Talani a joint à New York Élise Kepler, directrice adjointe d'Amnesty International.
Cette condamnation est une étape très importante pour les victimes au Libéria. Il y a beaucoup d'années, il n'y a presque rien de procès pour les crimes les plus graves au Libéria. Libéria n'a rien fait pour la justice dans le pays et il n'y a que peut-être 2 ou 3 condamnations par les pays comme les États-Unis, la France et la Suisse. Donc, c'est un grand espoir vraiment pour les victimes et les communautés qui sont plus affectées par les crimes d'avoir un peu de justice. C'est la première fois d'avoir une condamnation sur les crimes contre l'humanité qui ont été commis pendant la première guerre civile au Libéria. Donc, c'est vraiment important pour Libéria.
Quel est le message que cette condamnation peut envoyer aux autres criminels de guerre?
Les autres criminels au Libéria ou n'importe où savent que c'est possible d'avoir la justice, même si c'est 20 ans après, 25 ans après.
Pourquoi le Libéria lui-même a du mal à juger les criminels de guerre?
ça, c'est la question la plus importante et j'espère que vous demandez ça au gouvernement. Nous voyons qu'il y a des gens qui sont impliqués dans les crimes comme Prince Johnson, qui ont toujours les positions de pouvoir, les positions comme législateurs, les gens qui font les lois. Et il y a opposition des gens comme ça. Donc ça, c'est une raison. Mais c'est clair que les victimes, les sociétés civiles, les chefs religieux, tout le monde vraiment au pays, ils veulent avoir la justice, ils veulent combattre l'impunité.
Y a-t-il déjà eu d'autres condamnations liées aux guerres civiles au Liberia?
Oui, il y a deux autres condamnations que je connais pour Liberia. C'est la condamnation de Charles Chucky Taylor Jr. Ça, c'est le fils du ancien président Charles Taylor. Et il était devant la justice aux États-Unis pour la torture qui a été commise dans la deuxième guerre civile au Liberia. Aussi, il y avait l'affaire de Kozaya, Alio Kozaya, en Suisse, il y a une année. Et enfin, Kozaya était un témoin dans l'affaire de Kunti Kamara.
Élise Kepler, directrice adjointe d'Amnesty International. Les Américains sont appelés mardi prochain à renouveler l'ensemble des sièges de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Une série de postes de gouverneurs et d'élus locaux sont également en jeu. Certains candidats disent qu'ils ne vont pas accepter les résultats. Le président Joe Biden parle d'une démocratie en danger. Rosine Munizero s'est entretenue avec Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
Je partage ce point de vue parce qu'en 2020, après avoir perdu l'élection, l'ancien président Trump a dit « Non, j'ai pas perdu l'élection, c'était la fraude ». Sans donner le moindre preuve, il est allé devant les tribunaux avec certains éléments de preuve et c'était tout à fait rejeté. Et après avoir été refusé par les tribunaux, il a fait une insurrection, il a fait la guerre. Il a ramassé quelques milliers de gens, ils ont attaqué le Capitole le 6 janvier. Au moment où le Congrès comptait les grands électeurs pour décider qui était élu. Et depuis, il y a beaucoup de gens qui ont cru à M. Trump que l'élection était une faute. Et certains gens sont candidats dans l'élection dans quelques jours. Il y a une élection pour les députés, les sénateurs. Et ils disent, moi, je dois gagner. Si je ne gagne pas, je refuse l'élection. Donc, c'est une crise ici pour la démocratie.
Selon les enquêtes d'opinion les plus récentes, l'opposition républicaine a de très grandes chances de s'emparer de la Chambre. Quelles seraient les raisons à cela?
Tout le monde croit qu'ils vont gagner. Ils vont essayer de faire des projets de loi sur les élections, mais je ne crois pas qu'ils vont réussir parce que les démocrates vont contrôler le Sénat et peuvent empêcher n'importe quel projet de loi antidémocratique.
Par rapport au problème économique, pensez-vous que les électeurs comprennent cet enjeu?
Selon les sondages, les gens qui vont voter mardi prochain croient que le plus important problème maintenant, c'est l'économie. Parce qu'il y a un taux d'inflation de 8% qui est très, 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 très important. On n'a pas vu ça depuis 20 ans. Et c'est-à-dire pour acheter des choses à manger, ça devient de plus en plus difficile pour les Américains. Une augmentation dans un an de 8%, c'est beaucoup. Donc, selon tous les sondages, la question économique est la plus importante pour l'élection de mardi prochain.
Dans son discours dans l'État d'Arizona, l'ancien président Barack Obama a invité la population à sortir pour voter. Pensez-vous que les gens peuvent décider de ne pas aller voter? Quelles seraient les motivations à cette absence des électeurs dans les bureaux de vote?
Oui, il y a toujours des gens qui ne votent pas. Ils ne voient pas de différence entre démocrates et républicains. Donc Obama dit, si vous ne voulez pas que Trump revienne au pouvoir, il faut aller voter massivement.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seludia, à la mise en onde, Michel Joseph, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.